Bonsoir Didier Martin.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance de Côte d'Or. Il se trouve que vous étiez radiologue dans cet hôpital de CHU, le CHU de Dijon. Pendant combien de temps ?
Plus de 25 ans.
Plus de 25 ans. Comment est-ce possible, ce que l'on voit là ce soir, sans rentrer dans, j'allais dire, dans le débat qui s'est ouvert entre la famille et le CHU, la famille qui dit notre mère n'a pas été nourrie,
on
le CHU dit des plateaux
ont été
distribués, mais comment expliquer qu'en France, en arrivant aux urgences de Dijon, une simple opération, si je puis dire, du fémur, soit reportée à 5 reprises par manque de personnel. Déjà, ce point de départ-là, comment est-ce possible ?
C'est difficile à concevoir. Comment se fait-il qu'on reporte pendant 5 jours une intervention chirurgicale chez une patiente âgée qui a une fracture, a priori, du fémur, ça se confirme. Et on comprend qu'il y ait des planifications difficiles des blocs opératoires. Les personnels soignants sont sous tension depuis 2 ans et demi. Il y a eu beaucoup de départs, en particulier chez les infirmiers. Et donc, pour programmer les interventions, il faut tenir compte de ces ressources humaines. Mais 5 jours consécutifs, ça paraît vraiment excessif.
Mais est-ce que ça, c'est quelque chose ? De nouveau, on parle depuis des semaines, des mois maintenant, de la dégradation de la situation à l'hôpital. Est-ce que le fait de ne pas avoir suffisamment de personnel pour programmer ne serait-ce que cette opération, est-ce que ça, c'est quelque chose de nouveau et d'alarmant, évidemment ?
C'est évidemment alarmant, c'est nouveau, mais je crois que c'est la réalité. C'est par manque de personnel que je pense que cette intervention a été repoussée de jour en jour. Et ça, ça nécessite des moyens. Le ministre de la Santé avait pris des mesures pour passer l'été, avec des primes données aux services de nuit, des primes sur les heures supplémentaires, pour garder le personnel présent, sur place et mobilisé. Mais visiblement, cet été, il semblerait que les blocs aient tourné à 60% seulement, alors qu'il y a des chirurgiens.
La famille, les enfants de cette dame disent qu'elle-même se plaignait de ne pas avoir suffisamment à manger, à boire, disent qu'elle a été à peine nourrie. L'hôpital en face dit qu'il y a eu des plateaux repas distribués. Il y a juste une chose qu'on ne sait pas. Et est-ce que c'est vérifié, ça, que ce qui a été distribué a été mangé ? Est-ce que ça, c'est vérifié par l'hôpital ?
Effectivement, c'est le travail de prendre soin des auxiliaires des services hospitaliers, des aides-soignantes, pas seulement de poser un plateau devant un patient, mais de s'assurer qu'il est en état de s'alimenter lui-même et qu'il a bien mangé. Et si ce n'est pas le cas, il y a d'autres mesures à prendre pour effectivement maintenir le bon état général du patient.
Oui, évidemment. Bonsoir Vanick Berton.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes journaliste à Dijon pour le journal Le Bien Public. C'est vous qui avez révélé cette affaire. La famille, et je voulais insister là-dessus, répète aujourd'hui, après les explications de l'hôpital, que cette femme a bien réclamé à manger.
Oui, tout à fait. Nous, c'est les infos qu'on avait, c'est que cette dame, tous les jours, réclamait à manger. Elle avait faim, elle avait soif. Donc, effectivement, ça pose la question pourquoi elle n'a pas été entendue ? Pourquoi sa famille nous dit aussi qu'elle l'a signalée aux infirmières ? Pourquoi elles n'ont pas été entendues, cette dame et toute sa famille ?
Oui, ça c'est important ce que vous dites. La famille est bien allée voir les aides-soignantes, les infirmières pour lui signaler le problème ?
Tout à fait. Apparemment, au moins à 2 reprises, la famille l'a signalé à une infirmière qui a dit qu'il fallait qu'elle reste à jeun parce qu'à tout moment, elle pouvait être opérée. Sauf que, on a bien vu qu'elle n'a jamais été opérée au final.
Il y a une enquête en cours pour déterminer évidemment les causes de la mort de cette dame. Il y a une autopsie qui a été pratiquée. Les résultats d'autopsie, est-ce que la famille les a ?
Alors non, la famille ne les a pas. Et tout simplement parce que, d'après le parquet de Dijon, les résultats étaient partiels. Et donc, le parquet a demandé un complément d'informations. Donc, de nouveaux résultats sont en cours. Et pour l'instant, ni le CHU, ni le parquet, ni la famille, personne n'a connaissance de ces résultats. Donc, tout le monde est dans l'attente, moi la première. Mais voilà.
Merci beaucoup Vanick Berton. Nora, je le disais, ça fait des mois que les soignants dénoncent la situation d'un hôpital qui se dégrade de jour en jour. Là, on a une affaire, encore une fois, sans attendre les résultats de l'enquête, on a ces éléments donnés par l'hôpital d'une simple opération qui est repoussée de jour en jour et on impose à cette patiente 5 jours de suite d'être à jeun, en lui distribuant visiblement des plateaux repas, c'est ce que dit l'hôpital, mais d'être à jeun 5 jours de suite.
Mais on voit bien à quel point, en fait, ce genre de d'accidents malheureux. Alors, accident, l'enquête nous le dira. Enfin, voilà, de décès malheureux vont se reproduire. Il faut se souvenir que l'été dernier, on s'est retrouvé face à une situation absolument critique, à tel point, en fait, que je prends les chiffres. Hein, 120 services d'urgence ont dû fonctionner de manière dégradée, et ce, dès la fin mai. La crise des urgences, en fait, elle ne remonte pas. On ne fait pas mine de la découvrir aujourd'hui. La seule chose, c'est que le ministre de la Santé, François Rabouanne, disait le 29 août dernier que voilà, la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu, et bien il semblerait qu'en fait elle ait lieu aujourd'hui. De fait, là, il faut s'attendre clairement à ce qu'on ait ce genre d'accident, de décès malvenus, de drames, de drames pour les familles, qui vont se systématiser. Pourquoi ? Parce que on est dans un manque critique. Vous le rappeliez, monsieur, on est dans un manque critique de personnel. Ce n'est pas que les médecins, ce sont les personnels soignants, tout le paramédical, la prise en charge, des services d'urgence qui sont absolument débordés, qui sont dans l'incapacité en fait de gérer les arrivées. Pourquoi ? Parce que de manière aussi critique, la médecine de ville est absolument fragilisée. On estime aujourd'hui que 13% des Français en fait n'ont pas de médecin traitant. Donc tout ceci finit par arriver aux urgences, et tout ceci finit par quoi ? Par ce type de drame. Donc on n'est qu'au début, sachant que par ailleurs, et ça pendant le Covid on l'avait vu aussi, les fermetures de lits pendant la période du Covid ont aussi continué. En 2021, de mémoire, on en a fermé 4400. Cela continue. Il y a des rassemblements d'hôpitaux. Les gens sont de plus en plus loin des hôpitaux. Donc clairement, nous ne sommes qu'au début de la crise.
D'un mot, je rejoins ce que dit Nora, c'est-à-dire qu'il y a une crise structurelle qui dure depuis des dizaines d'années. Ce qui est saisissant, je trouve, sur ces 2-3 dernières semaines, c'est qu'on voit que les personnes touchées sont les plus vulnérables. C'est-à-dire que vous avez les enfants, c'est-à-dire qu'on a transféré des enfants pédiatrique. D'urgence pédiatrique pour des bronchiolites, on les a transférés dans les hôpitaux parfois à 100 ou 200 km de chez eux parce qu'on ne pouvait plus les soigner. Donc les enfants et cette histoire de femmes âgées, ce qui nous frappe, c'est que ce sont les personnes les plus vulnérables qui ont le plus besoin d'être pris en charge de façon rapide et proche, et sont peut-être des décès ou des urgences qu'on pourrait éviter. Et ça, c'est les symptômes qui doivent tous nous inquiéter.
Ce qui est difficile, c'est qu'il y a bien sûr le sujet des moyens, il y a de l'argent qui a été mis, mais c'est ce que disait Nora, le sujet des personnels. Et là, on sait que sur les médecins, la fin du numerus clausus, ça met des années à produire ses effets. Il y a la question des paramédicaux, et là, on voit bien qu'il y a un sujet non seulement de rémunération, et puis de quête de sens, notamment post-Covid, quand on discute avec les uns et les autres. Donc, c'est pas quelque chose qui se réglera d'un claquement de doigts. Et là où je rejoins Antonin, c'est qu'il y a, au fond, il y a ce qui s'est passé avec la bronchiolite, il y a d'autres cas qu'on a pu voir à la Riboisière, cette résistante qui était restée pendant 24 heures sur un brancard, une femme d'une cinquantaine d'années qui était de la même manière morte. Cette impression qu'au fond, ce qui était le joyau français, c'est-à-dire les services publics, les hôpitaux, était désormais une sorte de symbole d'une forme de dégradation, de déclassement de ce système social. Et c'est aussi sans doute ce que les Français se disent en voyant cela. Mais tout ne peut pas être réduit simplement à la question des moyens, parce que, rappelons-le, il y a quand même des choses qui ont été faites, même si ça va sans doute pas assez loin.
Évidemment. Monsieur le député, encore une question. Nora le disait tout à l'heure, la crainte, le risque, c'est que ça devienne systématique, que ça devienne régulier, ce genre de drame-là. Est-ce que c'est la crainte que vous avez également ce soir ?
Évidemment, on peut le craindre. Moi, j'ai une pensée aussi pour la communauté hospitalière qui a fait des efforts, qui est mobilisée, qui fait preuve de professionnalisme, qui est de dévouement. Et aujourd'hui, c'est un choc aussi pour eux. Je pense à la famille, je pense aussi à tous ces soignants, parce qu'il y a des chercheurs, il y a des enseignants, il y a des soignants à tous les niveaux de la chaîne de responsabilité. Et pour eux, c'est effectivement un drame aussi personnel et professionnel.
Ils partent notamment parce qu'ils ne peuvent plus assurer des soins corrects et se retrouvent dans des situations dans lesquels ils ne veulent pas se retrouver, c'est-à-dire comme ce qui est arrivé là.
Il y a des mouvements de personnel, c'est ça, effectivement. Je rappelle aussi qu'il y a aussi des chirurgiens de l'hôpital public qui sont allés opérer dans les cliniques privées parce que c'était nécessaire et la priorité était le Covid à l'époque. Donc il y a, entre le public et le privé, des solutions à trouver.